Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Dans le 13e chapitre de Matthieu, il y a à peu près 7 paraboles que l'on appelle les paraboles du royaume. Alors, les paraboles ne sont pas à confondre avec des fables ou des allégories. Les fables, c'est, vous pouvez penser aux fables de La Fontaine, par exemple, le corbeau et le renard. On fait parler des animaux et puis on en tire une certaine morale. Alors, ça n'est pas ça une parabole. La parabole, ça n'est pas non plus, quelqu'un soulignait, des allégories. Dans les allégories, chaque chose a une signification particulière. Donc vous connaissez bien ceux qui ont lu Le Voyage du Pèlerin. Eh bien voilà, on a une allégorie de la part de John Bunyan. Et les paraboles ne sont pas non plus des allégories. Parfois, on veut faire coller chaque détail d'une parabole à quelque chose. Et quelqu'un faisait remarquer que lorsque l'on fait ça, on finit par avoir une histoire ou une doctrine qui est complètement qui peut être complètement aberrante. Donc on n'a pas à faire communiquer chaque détail que l'on lit à quelque chose de particulier. Mais les paraboles sont des histoires de la vie courante que Jésus a beaucoup utilisées. Et quand on lit les paraboles de Jésus, c'est toujours quelque chose que l'on fait dans la vie de tous les jours. Mais il s'en sert pour enseigner bien souvent une vérité fondamentale. Peut-être on peut avoir des applications, mais il y a une chose que Jésus veut enseigner avec les paraboles. Et donc, nous faisons ça avec les ados. Et nous avions vu il y a quelque temps la première des paraboles qui était dans Matthieu chapitre 13, que je vous demande de prendre ici. Matthieu chapitre 13. Et avant de lire la parabole, on va lire parfois pourquoi Jésus parle en parabole. Il le dit dans ce chapitre parce que dans les chapitres avant, le Seigneur a parlé à toute cette foule qu'il a rejetée, qui a rejeté sa parole. On parlait tout à l'heure de recevoir la parole, qui a rejeté sa parole. Et la Bible dit que dès lors, à partir du chapitre 13, Jésus parle en parabole. Et ses disciples, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il parle en parabole. Alors, ils lui posent la question. Si vous regardez Matthieu chapitre 13, et à partir du verset 10, il est dit, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et à celui qui sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parle aux disciples, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes, de justes, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc on voit ici que la parabole est utilisée par Jésus presque comme une, une condamnation, hein, un châtiment sur ceux qui n'ont pas écouté premièrement sa parole. Mais aux disciples qui ont écouté initialement sa parole, il continue à révéler des choses. Donc à partir du moment où les hommes l'ont rejeté, n'ont pas reçu sa parole, la Bible dit que Jésus a parlé en parabole, il dit « afin que s'accomplisse ce qui est écrit par Ésaïe ». Donc la citation là, c'est le passage d'Ésaïe chapitre 6, hein, qui est en question ici. Et il va parler à la foule en parabole, mais à ses disciples, il va donner en privé des explications des paraboles afin qu'ils comprennent davantage sur les choses du royaume de Dieu. Et ça nous fait penser que quand le cœur s'endurcit pour ne pas écouter la parole, eh bien il arrive un moment où on ne comprend plus, où les choses deviennent de plus en plus obscures. Et c'est ce qui arrive à ce peuple-là. Et donc, nous voulons considérer, c'est pas ce passage que nous avons lu, mais la parabole en elle-même qui commence à partir du verset 3. Verset 2, il est dit « Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. » Ça veut dire que cette foule n'a pas compris tout ce que Jésus a dit à partir de ce moment-là. Parce que même les disciples n'ont pas compris et ils ont dû demander des explications en privé pour que le Seigneur leur explique. Il leur parla en parabole et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. » Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100, un autre, 60, un autre, 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, les disciples demandent à Jésus l'explication de la parabole et à partir du verset 18, nous avons l'explication. Il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Voilà donc la parabole et son explication. Donc cette parabole, bien sûr, c'est une parabole sur la manière avec laquelle on écoute la parole de Dieu. Si vous lisez cette parabole est racontée dans Marc chapitre 4 et aussi en Luc chapitre 8. Et si vous écoutez, et si vous lisez dans Luc chapitre 8, un peu après la parabole, Jésus dit ceci. Il dit prenez garde à la manière dont vous écoutez. C'est-à-dire, il décrit ici des différents cas de situation pour parler de son royaume. Mais pour dire que l'entrée dans le royaume est basée sur la manière dont on reçoit la parole de Dieu. Et le titre du message ce matin, c'est « Prenez garde à la manière d'écouter l'Évangile ». Prenez garde à la manière d'écouter l'Évangile. Verset 20, 22, 24, il est dit « Celui qui entend la parole ». À chaque fois, Jésus parle du terrain en disant « Celui qui entend la parole ». Et qui fait ceci, celui qui entend la parole. Donc il y a une manière d'écouter, d'entendre cette parole et on doit y prendre garde. Ce que je voudrais souligner ce matin, c'est deux choses. Ce qu'il y a plusieurs manières mauvaises d'écouter l'Évangile. Il y a plusieurs mauvaises manières d'écouter l'Évangile. C'est ce que l'on voit dans les ce que Jésus dit dans les trois premiers sols dont il est question ici. Il dit à partir du verset 4, donc on va lire, un semeur sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc on lit l'explication verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui est semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il y a plusieurs manières mauvaises d'écouter l'Évangile. Une de ces manières, c'est d'écouter avec un cœur endurci. Écouter avec un cœur endurci. C'est ce que l'on voit dans ces versets 4 et verset 19. Alors, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, vous voyez comment Jésus décrit cette parole, il dit c'est la parole du royaume, le royaume de Dieu vient en parole, qu'il faut recevoir, n'est-ce pas? Il dit, eh bien, il ne la comprend pas. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle, parce que les gens, les contemporains de Jésus, comprenaient ce qu'il disait, quand il leur parlait clairement. Quand il dit « Je suis le Messie », tout le monde comprend « Je suis le Messie ». Je suis le roi qui doit venir, ils comprennent cela. Je suis le Fils de Dieu, ils comprennent bien ce qu'il dit. D'accord? Donc ce n'est pas une question de compréhension ici intellectuelle. Mais c'est une compréhension, ils ne comprennent pas au point de considérer ce qu'il dit et de recevoir véritablement ce qu'il dit. Pour eux, c'est rien, c'est absolument rien. Ils ne considèrent pas ce que Jésus est en train de dire. Ils ne donnent aucune attention à cette parole du royaume. Ils ne cherchent pas à tirer profit, à tirer un bénéfice de cette parole. Elle ne les pénètre pas. Elle ne rentre pas dans leur considération. C'est un peu ce que l'apôtre Paul dit par, vous voyez, quand il parle de l'intelligence obscurcie. Dans Éphésiens chapitre 4 et verset 18, il parle des gens, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc il y a le cœur endurci et l'intelligence obscurcie. Le cœur endurci conduit à une intelligence obscurci. Ce terrain, ce premier sol dont il est question ici, c'est un sol, c'est sur le long du chemin, c'est là où les gens marchent, c'est un sol qui a été tassé. Lorsque la semence tombe sur ce type de sol, elle ne pénètre pas. Et Jésus dit que les oiseaux viennent aussitôt, prennent cela et puis s'en vont. Et il dit, l'interprétation de cela, c'est que quand la parole de Dieu tombe sur un tel cœur endurci, eh bien, il y a quelqu'un qui vient immédiatement l'enlever. C'est le diable, ici. Et Marc dit, aussitôt le diable vient pour enlever cette semence. Ceux qui ont le cœur endurci ne considèrent pas la parole de Dieu, mais le diable, lui, il considère cette parole au point de venir pour pouvoir l'enlever, pour enlever cette parole. Donc cette pensée de ce cœur endurci est souligné de cette absence de compréhension est souligné dans les versets 14 et 15 que nous avons lus tout à l'heure, où Jésus dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Il dit, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. La non-compréhension de ce qu'il dit vient du fait que le cœur est devenu dur, insensible, endurci par le péché, par le désir de vivre pour soi-même. Et donc c'est la compréhension du cœur qui est soulignée ici. Ils ne comprennent pas. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, il ne la comprend pas avec le cœur, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu. Son cœur est tellement dur qu'elle ne pénètre pas en lui. Eh bien, il est comme ce terrain sur lequel la semence est tombée sur le bord du chemin que les oiseaux viennent et enlèvent. D'accord. Satan est plus intéressé souvent par la semence qui a été jetée, semée, que celui qui a reçu parfois la semence. Il est plus intéressé par cette semence pour venir et l'enlever rapidement que certaines personnes ne le sont pour garder cette semence et pour prêter attention à cette semence. Lui connaît l'importance et la puissance de cette semence. Et Jésus dit ici que c'est une mauvaise manière d'écouter la parole. Et il y a beaucoup de personnes qui écoutent avec un cœur endurci. Parfois, le péché ou l'absence de pardon, des problèmes non réglés font que nous pouvons écouter avec un cœur endurci. La parole tombe, mais ça ne fait rien. Aussitôt, on a quitté la salle, on n'a déjà plus rien. On a déjà oublié ce que l'on a entendu. Et Jésus dit attention à la manière avec laquelle vous écoutez. Écouter avec un cœur endurci, c'est écouter d'une mauvaise manière. Et parfois on écoute avec la tête qui tombe, les yeux qui s'en vont, tellement on est fatigué. Parfois la fatigue peut donner un cœur, parfois aussi, insensible, tellement on fait des choses, on vit toute la semaine pour soi-même, et puis on ne donne au Seigneur qu'un corps fatigué le dimanche matin, incapable de recevoir quoi que ce soit. Ou un corps fatigué dans la semaine, incapable de lire même la parole au cours de la semaine. Tout cela, c'est des cœurs qui sont des cœurs endurcis que l'on peut, dans lesquels la parole ne pénètre pas. Et deuxième manière, ici que Jésus souligne, c'est le deuxième terrain. Regardez au verset 5, il dit « Une autre partie de la semence tombe dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle lève aussitôt. » Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Regardez au verset 20, l'explication qu'il donne, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survint une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette sorte d'écoute ici? Il y a une rapidité d'accueil de la parole. Parce que vous voyez ça, il la reçoit, le texte dit aussitôt. Verset 5, il dit « Une autre partie tombe dans les endroits pierreux et elle lève aussitôt. » Ici, hein. Et vous avez peut-être déjà, si vous avez fait un peu de jardinage, vous avez peut-être déjà planté ou dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de terre, en plaine, au printemps, ça lève tout de suite. D'accord? Ça va tout de suite. Et j'ai semé du gazon l'année dernière, je l'ai fait au mois d'avril, presque mai, je crois, pratiquement. En 4 jours, j'avais déjà une petite herbe, comme des petites herbes comme ça qui sortaient, puis ça a poussé très vite. On a arrosé et on avait un beau tapis bien vert. Au bout de 2 semaines, c'était ma femme aimait passer son pied là-dessus parce que c'était tout doux. Hein. Elle dit oh c'est comme de la moquette. Hein. Et c'était vraiment tout beau. Mais on a eu un été très très chaud. Je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, très très chaud. Il y a eu beaucoup de soleil. J'ai passé du temps à mouiller, à mouiller, à mouiller, à arroser. Mais malgré ça, l'herbe a quand même jauni. Elle a jauni. Et mon voisin m'a dit, mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas planter en cette période-là, il faut planter en automne. Ça a le temps de prendre des racines. Alors j'ai retravaillé une autre partie du jardin que j'ai planté, que j'ai semé en automne. Et au bout d'un mois, je regarde là, il n'y avait rien. Ma femme, elle me dit, oh, je ne pense pas que ton truc, il a pris là. Hein. Et j'ai dit, mais attends, c'est l'automne, ça prend du temps. Et au bout de plus de mois, on a vu des petits trucs qui commencent à apparaître. Et puis tout doucement, tout doucement, tout doucement, c'est monté. Quoi, hein. Et ça a bien poussé, d'accord? Mais pendant tout ce temps-là, il y a eu des racines qui ont poussé au fond. Et cette herbe-là, maintenant, elle n'est pas très grande, mais elle est bien verte. J'espère que le soleil ne va pas la brûler, mais là, je suis sûr que celle-là, elle est mieux que la première parce que elle a eu le temps de prendre des racines. Et quand des plantes ou des arbres ont le temps de prendre des racines, ils supportent mieux le soleil, mieux quand la température du soleil monte. Et Jésus dit qu'il y a des personnes qui écoutent et qui écoutent comme ces terrains. Ils sont comme ces terrains dans lesquels il y a peu de terre. Donc quand ils entendent quelque chose, ça pousse vite, parce qu'il y a un petit peu de terre quand même. Et c'est la joie. On connaît des situations comme ça, où des gens reçoivent, on dit, oh là là, tu verrais comment cette personne s'est tournée vers le Seigneur, c'est extraordinaire. C'est la joie, c'est le feu d'artifice. Elle est présente partout, elle s'engage dans tout, c'est amen, alléluia, tous les trucs, tout ce qu'on dit dès que ça vient de la Bible, c'est bon, c'est parfait. Tout est beau. Et puis il arrive que à un moment, les choses commencent à se tasser. Puis parfois, il y a des personnes qui disparaissent tout doucement, malgré qu'on essaye, mais ça disparaît. Surtout quand les difficultés arrivent. Quand les difficultés, à cause de la parole même, arrivent. C'est ce que Jésus dit. Il dit, regardez ce qu'il dit au verset 20. Il dit, verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Pour lui, c'est une occasion d'abandonner. C'est trop difficile. Si vous avez lu le livre Le Voyage du Pèlerin, vous vous rappelez de personnage qui s'appelait Facile. Un Facile, c'est un personnage qui est parti avec un chrétien qui pour quitter la cité de la destruction et pour aller, n'est-ce pas, comment ça s'appelait, j'oublie le nom, en tout cas, voilà, pour aller vers le paradis, hein. Ça, c'était une allégorie, par contre. Et donc, il était tout feu, tout flamme. Il dit à Chrétien, raconte-moi ce qu'il y a dans ce livre. Et il lui raconte comment c'est la cité céleste, etc. Il dit, oh, mais Chrétien, il faut qu'on fasse plus vite, il faut qu'on y aille. Hein, et vraiment, c'est super ce que tu me dis, ici. Et à un moment, la Bible raconte que, eh bien, ils arrivent dans une situation difficile. Hein. Donc, écoutez ce que disait Facile. Il dit que je suis ravi, mon cher compagnon, d'entendre ces choses. Hâtons-nous. Un tel bonheur mérite bien que nous redoublions nos efforts. Allons-y. Et c'est lui qui encourage le chrétien. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, il tombe dans ce qu'on appelle le bourbier du découragement. Et puis, Facile commence à dire aux chrétiens, mais c'est quoi ça? Et puis, il dit, moi, je sais pas. Il dit, mais si ça commence comme ça, le chemin, on est qu'au début, je me demande comment ça va être à la fin. Et puis, il commence à se débattre, il sort de ce bourbier, et puis, il retourne dans la cité des destructions. Il dit, non, ça, c'est pas pour moi. Et c'est ce que Jésus explique ici, un peu, des situations où, voilà, on est tout feu, tout flamme, parce que c'est nouveau, parce que ça nous paraît beau, l'évangile. Et puis, quand les difficultés arrivent, eh bien, on abandonne. On abandonne parce qu'on n'a pas calculé le prix. Jésus dit, celui qui veut me suivre, il doit s'asseoir et calculer la dépense. On abandonne parce qu'on n'a pas compris qu'il faut prendre aussi sa croix. On a écouté ce qui nous plaisait, on a trouvé ça beau. On a trouvé Jésus intéressant, les chrétiens agréables de compagnie. Mais Jésus dit qu'il n'y a pas eu de racines véritables. Il n'y a pas eu d'ancrage, il n'y a pas eu de fondation solide. Et quand le soleil, quand la température de la persécution augmente, eh bien, la joie qu'il y avait disparaît. Et la foi qu'il y avait disparaît. Parce que c'était une foi temporaire. Vous voyez ce que Jésus dit ? Il croit pour un temps. Une foi temporaire n'est pas une foi véritable. La foi véritable est une foi qui demeure. La joie véritable est une joie qui demeure. Quand les choses ne demeurent pas, c'est qu'elles ne sont pas vraies. C'est qu'elles ne sont pas vraies. Une troisième manière d'écouter, verset 7 et verset 22, c'est écouter avec un cœur étouffé. On pourrait dire ça comme ça. Regardez verset 7. Il dit, une autre partie tombe dans les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et au verset 22, nous lisons,
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, que tous les terrains, dans tous les terrains, pour toutes les personnes, pour tous les cœurs qui sont représentés par ces terrains, Jésus dit qu'ils entendent cette parole. Ils l'entendent, mais l'attitude, la réponse face à la parole n'est pas la même. Ici, il y a un cœur qui est comparé à un terrain dans lequel il y a beaucoup d'épines. Il dit que les épines croissent et étouffent, étouffent la semence. Ils l'empêchent de porter du fruit. Ils la rendent infructueuse. Et dans les jardins, vous pouvez connaître cela aussi. Quand on ne débroussaille pas, si on n'enlève pas les vieilles herbes et tout ça, ça pousse vite et ça vient tuer et étouffer la bonne graine et la bonne semence. Et Jésus donne deux types d'épines ici. Il dit ce sont les soucis de la vie ou les soucis de ce siècle. Ce sont les anxiétés, les inquiétudes. Et on se fait beaucoup de soucis pour beaucoup de choses, pour le travail, pour le logement, pour la sécurité, pour le pouvoir d'achat. Voilà, toutes ces choses peuvent constituer, bien sûr, des soucis qui nous privent, qui peuvent priver de jouir véritablement de la parole. Jésus disait, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que le jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est-à-dire que ces choses dans lesquelles nous vivons, bien peuvent, les inquiétudes, les choses de la vie peuvent être telles que cela étouffe l'effet de la parole dans un cœur. Et Jésus souligne aussi la séduction des richesses. Il considère que le cœur qui écoute et qui est occupé et séduit par les richesses est un cœur dans lequel la parole aura du mal à porter du fruit. La richesse du monde et l'attrait pour ces richesses étouffent tout progrès spirituel. On peut penser à ce jeune homme riche avec qui Jésus a eu un entretien, vous vous rappelez? Il dit, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et puis Jésus lui dit, bien, quels sont les commandements? Et Jésus lui dit, bien, va, fais ces choses. Et il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus lui dit, mais il te manque une chose. Une chose. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et la Bible dit, lorsqu'il entendit ces paroles, voyez encore, entendre cette parole, lorsqu'il entendit cette parole, il devint tout triste, car il était très riche. Il devient tout triste, pas parce qu'il n'a pas compris ce que Jésus lui a demandé, mais parce qu'il était très riche. Okay. Et peut-être on peut courir après, même en tant que chrétien, après les richesses, ça peut arriver, on veut les biens matériels. Nous sommes riches de beaucoup de choses dans notre société moderne, n'est-ce pas? On a beaucoup, on a peut-être deux voitures, une maison, des téléphones, on a savoir quoi en faire, plus de paires de chaussures que nos pieds ne peuvent emporter. On a tout, on a beaucoup de choses. Et ces choses peuvent être des obstacles. Et Jésus souligne, on l'a vu ça mardi soir, combien la richesse peut être un piège. Et pour le montrer, il dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que Jésus est contre la richesse, mais il exprime par là que la richesse a cette tendance à s'accaparer des cœurs. Quand la richesse accapare ceux qui les possèdent. La richesse possède ceux qui pensent posséder la richesse. Et il dit, ça devient difficile. Le souci de ce siècle et la séduction, le plaisir des richesses est quelque chose qui étouffe le cœur et l'empêche de recevoir la parole de Dieu comme elle doit être reçue. L'apôtre Paul disait à Timothée, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc,
Attention, il y a plusieurs mauvaises manières d'écouter la parole. On peut écouter la parole avec un cœur endurci. On peut écouter la parole avec un cœur superficiel, comme ce terrain où il y avait très peu de terre. On peut écouter la parole avec un cœur qui est déjà occupé par beaucoup de choses, étouffé par les soucis de la vie et la séduction des richesses. Et toutes ces choses, et encore il y en a probablement d'autres, sont des obstacles à la véritable pénétration de la parole dans le cœur. Mais s'il y a plusieurs mauvaises manières d'écouter la parole, il n'y a qu'une seule bonne manière d'écouter la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus souligne, je crois, dans le quatrième cas qu'il donne, regardons ensemble. Il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et il donne l'explication au verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Vous rappelez ce qu'on avait lu au verset 19? Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Et Jésus dit maintenant, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il y a celui qui entend et ne comprend pas. Et c'est décrit partout, ces terrains qu'on a vus, c'est-à-dire la parole ne pénètre pas, son cœur est endurci, il n'y a pas de compréhension du cœur. Il dit, mais celui qui entend la parole et la comprend, c'est le terrain la bonne terre dans lequel la semence tombe et porte du fruit. 1%, 1%, 60%, 1%, 30% ici. Et ce que Jésus souligne ici, il y a deux choses, hein, je crois. La compréhension du cœur, avec cette parole, la bonne terre, quand la parole tombe dans la bonne terre, et la fertilité. Le cœur, cette personne, porte du fruit. Quelle est la différence entre les différents terrains, les trois premiers, le type de sol, et le quatrième? Eh bien, c'est le fait de porter du fruit. C'est le fait de porter du fruit. Dans les autres, il y a eu, le premier, il n'y a eu rien eu, le diable est venu, il a tout enlevé. Le deuxième, ça a poussé, mais ça n'a pas le temps de faire des fruits, ça a été brûlé. Le troisième, c'était tellement chargé le cœur que tout a été étouffé. Le quatrième, la semence pénètre le sol et porte du fruit. Et porte du fruit continuellement. Si on lit le passage dans les deux autres évangiles, je vous le lis, Marc 4, 20 dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 1 et 100 pour 1. Luc 8, 15 dit, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et porte du fruit avec persévérance. Voilà comment ils décrivent cela. La seule bonne manière d'écouter l'évangile, c'est de l'écouter de manière à recevoir la parole continuellement. Écouter de manière à recevoir la parole continuellement. Ce que Marc dit, ils la reçoivent, cette parole. Il faut recevoir, non pas comme quelque chose d'agréable à entendre, mais comme étant la parole de Dieu, c'est-à-dire l'accepter, la recevoir, la considérer comme cela. Je ne peux pas écouter la prédication en disant ça c'est la parole du prédicateur, c'est son point de vue, et puis non, il faut écouter la parole prêchée, la parole lue comme étant la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, verset 13, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous rendons gloire, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme des paroles, comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous,
qui croyaient. Un des obstacles que l'on a, c'est que lorsqu'on écoute la parole, parfois on peut dire, mais ça, c'est lui qui pense ça. Ça, c'est lui qui pense ça. Moi, j'ai un autre point de vue sur ceci ou sur cela.
Nous devons écouter la parole de Dieu quand elle est prêchée, finalement, en recevant la parole comme la parole de Dieu.
Paul dit, vous l'avez reçue, non pas comme venant des hommes, vous l'avez reçue telle qu'elle est véritablement, comme la parole qui vient de Dieu et qui agit en vous. Il est important, chers frères et sœurs, quand nous écoutons la parole, même quand quelqu'un d'autre nous exhorte avec la parole de Dieu, nous dit, mon frère, regarde ceci, recevoir ce qu'il nous dit comme étant la parole de Dieu. Il faut la recevoir comme cela. On peut être attentif à quelque chose sans être réceptif à cette chose. On peut être attentif sans être réceptif. On peut être attentif à une argumentation parce qu'elle est bien développée. On dit, ah, ça a été bien mené, c'est bien conduit, c'est bien pensé, etc. Mais en même temps, ne pas être réceptif à ce qui est dit. On peut être attentif sans embrasser ce qui est dit. Et donc, c'est ce que Jacques appelait, rappelez-vous, les chrétiens à faire. Il disait qu'il faut qu'ils reçoivent avec douceur la parole qui a été plantée en eux. Dans Jacques chapitre 1, vous devez recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. La parole doit être accueillie dans tous ses développements, dans toutes ses implications. Elle doit pénétrer tous les domaines de notre vie. Et les enseignements que l'on reçoit doivent vraiment nous pénétrer, changer, pour que les choses puissent changer dans nos cœurs. Nous devons les recevoir, les contrôler qu'elles sont bien selon la parole de Dieu, comme faisaient les Bériens. Ils ont reçu la parole avec empressement. Le livre des Actes nous dit, ils ont reçu la parole avec empressement, mais en même temps, ils ont contrôlé pour voir est-ce que c'était conforme. Nous avons la responsabilité de contrôler pour voir si c'est conforme. Mais le cœur doit être disposé à la recevoir avec empressement. Il faut aussi retenir la parole et continuellement la retenir. C'est ce que Luc dit. Il dit, ceux qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Ils la retiennent. C'est garder fermement, garder dans son cœur, de manière à ce que ces choses puissent impacter notre vie. L'apôtre Paul disait à Timothée, retiens dans la foi et dans la charité ce qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Je le relis, 2 Timothée 1, verset 13, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Il faut non seulement écouter cette parole, non seulement la recevoir, mais la retenir. Ça ne veut pas dire simplement la mémoriser, mais ça veut dire la retenir dans ce qu'elle est, retenir ce qu'elle enseigne, retenir ses implications, tout ce que cela me demande. Il faut garder cette parole, comme le disait le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il y a un effort à faire pour retenir cette parole. Il faut la mémoriser, bien sûr, mais pas que cela. Il faut la maintenir dans sa vérité et ne pas chercher à l'altérer. Paul dit, retiens le modèle des saintes paroles, c'est-à-dire retiens-les telles qu'elles ont été enseignées. Et puis il faut, bien sûr, porter du fruit et porter du fruit continuellement. Ce n'est pas nous qui faisons ça nous-mêmes en nous. Mais cette parole, lorsqu'elle est véritablement plantée en nous, elle produit inévitablement du fruit. Une conversion qui ne produit pas du fruit n'est pas une conversion. Un christianisme qui ne produit pas du fruit n'est pas un christianisme. On parlait avec quelqu'un qui déménageait pour la salle à Sarcelles, les chaises, et je crois que c'était Timothée qui lui a demandé, mais est-ce que vous, il commence à parler de la Bible, il dit, moi je suis un croyant non pratiquant, les gens aiment beaucoup dire ça, je suis un croyant non pratiquant. Parfois il y a des chrétiens qui dans les églises sont un peu comme ça, ouais, je ne fais pas beaucoup de choses, mais j'ai la foi, une foi véritable se manifeste toujours par des fruits qui demeurent. Jésus dit ici, ils portent beaucoup de fruits. Les deux choses, la différence, on l'a dit, entre les terrains, c'est qu'il y a un fruit qui apparaît dans le quatrième et qui demeure. Quand il n'y a pas de fruit, il faut se poser des questions. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, vous vous rappelez ce qui vient après, et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà pourquoi Jésus choisit. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez, mais pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean-Baptiste disait, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Quand on se repent, quand on vient au Seigneur, il y a des fruits évidents de la repentance. Repentant. Je suis le cep, dit Jésus, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc une vie chrétienne sans fruits doit nous interpeller. C'est que la parole n'a pas été entendue, écoutée, comme elle doit être écoutée. Et il est important pour nous de nous questionner sur la manière avec laquelle nous écoutons la parole. Est-ce de manière superficielle? Est-ce avec un cœur endurci? Est-ce avec un cœur qui est étouffé? Ou est-ce avec un cœur ouvert et réceptif, qui reçoit la parole, qui la retient, qui persévère dans ce qu'elle a reçu? Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul disait, je vais vous le lire aux Corinthiens, lorsqu'il redéfinit pour eux ce que c'est que l'évangile, en Corinthiens chapitre 15, il dit ceci, il dit, « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. » Vous avez reçu, voilà, on retrouve nos mots. Ils l'ont annoncé, donc ils l'ont entendu, que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré, on trouve la notion de persévérance aussi. Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, encore ici on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de retenir la parole, dans les termes où je vous l'ai annoncé. Sans quoi vous auriez cru en vain. La parole doit être entendue, elle doit être reçue, retenue, et on doit y persévérer. Et porter du fruit avec persévérance. Celui qui ne demeure pas, ne fait pas partie, dit l'apôtre Jean. Je voudrais lire cela pour vous dans 1 Jean 2, verset 19. L'apôtre Jean dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Écoutez bien ce qu'il dit. Ils seraient, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est une parole qui est extrêmement importante, chers frères et sœurs. C'est-à-dire que ce que Jésus dit, les plantes qui se lèvent vite, qui poussent vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de sol, on peut se tromper puis croire qu'ils sont des nôtres. La parabole qui vient après, la parabole de l'ivraie du bon grain, explique exactement cela. Où Jésus dit non, laissez pousser les deux parce que ça se ressemble au début. Il faut attendre même jusqu'au jugement pour que la différence parfois soit faite. Mais Jean dit ici, attention, il dit, ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu, ils demeurent, ils portent des fruits qui demeurent, ils demeurent avec la communauté des croyants. S'ils partent et qu'ils abandonnent, et puis restent dans le monde, il faut considérer qu'ils n'ont jamais été et leur prêcher l'évangile, pour qu'ils réentendent l'évangile de Dieu. Je voudrais terminer avec quelques mots, chers frères et sœurs. Entendre l'évangile, c'est le besoin le plus urgent qui soit. Et pour le chrétien, et pour le non-chrétien. Nous avons besoin d'entendre l'évangile. Le royaume de Dieu requiert la parole du royaume. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit, ils ont entendu la parole du royaume. C'est par la parole que l'on entre dans le royaume de Dieu. Donc il faut que cette parole soit prêchée pour qu'elle soit entendue et qu'elle soit reçue. C'est exactement ce que Romains 10 nous dit. Il dit, comment invoqueront-ils? Il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Bien. Mais il dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous voyez, il faut que la parole soit entendue. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il y a un frère qui a parlé dans sa prière tout à l'heure en demandant que l'on prêche la parole partout, autour de nous, dans le travail, sous les réseaux, etc. Chacun, nous avons cette responsabilité. Ce n'est pas qu'ici, que, au pupitre, que la parole doit être prêchée. C'est autour de nous que nous devons être conscients que le plus grand besoin de nos voisins, de nos collègues, c'est d'entendre le message de la parole de Dieu. Mais notre plus grand besoin à nous aussi, c'est d'entendre ce message. Et c'est pour cela que c'est important de s'exposer le plus possible, personnellement, individuellement, mais en tant aussi qu'assemblée, en tant que corps, à l'explication et l'enseignement de la parole de Dieu. La bonne réponse de l'Évangile à l'Évangile nécessite un cœur préalablement préparé. La bonne réponse à l'Évangile nécessite un cœur préalablement préparé. Ce qui fait la différence entre les sols, ce n'est pas leur qualité propre ici, mais c'est le fait que la terre fructueuse a été une terre préparée. Luc dit, par exemple, que l'homme, le quatrième terrain, c'est celui qui reçoit avec un cœur honnête et bon. Mes chers frères et sœurs, personne ne naît avec un cœur honnête et bon. Tous sont pervertis, dit la Bible. Tous, sans exception. D'accord ? Donc nous ne naissons pas avec un cœur honnête et bon. Et donc il faut une œuvre préalable de Dieu dans le cœur, une préparation pour que le cœur puisse recevoir la parole. C'est pour ça que lorsque nous parlons à des gens, nous ne pouvons pas les forcer avec des arguments. Nous devons d'abord prier que Dieu œuvre. Et c'est ce qu'on prie d'ailleurs. On dit, Seigneur, travaille, touche-le. Travaille son cœur, attire son cœur à toi. Parce qu'il faut que le cœur puisse être préparé pour que la semence puisse être semée. C'est ce que fait l'agriculteur. Il remue, il travaille la terre et il l'ameublit de manière à ce que la semence puisse être semée et que le fruit puisse grandir. Dans le cas de Lydie, vous vous rappelez, il dit que le Seigneur a dû lui ouvrir le cœur pour qu'elle puisse comprendre, pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Le texte dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Okay. On peut écouter sans être attentif. Elle écoutait. Mais elle dit, il a fallu que le Seigneur intervienne. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. L'attention, c'est pas quelque chose même de naturel. Je vais être attentif. Non, il faut que Dieu œuvre pour qu'on puisse recevoir véritablement cette parole, qu'elle puisse toucher notre cœur, que notre cœur en soit changé. Troisièmement, je voudrais souligner que l'expérience de l'émotion n'est pas l'expérience de la conversion. L'expérience de l'émotion n'est pas l'expérience de la conversion. Nous ne devons pas nous arrêter au fait qu'il y a eu une manifestation émotive. Et parfois, il y a beaucoup ça. Dans les endroits où on fait des grands appels, parfois, il y a beaucoup de gens qui se lèvent, il y a une atmosphère émotionnelle. Le Seigneur a ses enfants partout. Le Seigneur touche des personnes aussi comme cela. Mais nous ne devons pas croire que parce qu'il y a eu cela et parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont levées comme cela, eh bien, toutes ces personnes sont véritablement des enfants de Dieu. On a dans nos familles même des expériences comme cela où des personnes de nos propres familles se sont levées. On sont allés devant, on priait, mais il y a eu, au bout de quelques temps, quelques semaines, il y a plus rien eu du tout. Il y a eu une émotion, il y a eu une joie, mais il n'y a pas une véritable conversion. Parce que l'expérience de l'émotion, ce n'est pas l'expérience de la conversion. Ici, texte nous dit que ces personnes ont eu de la joie, ils reçoivent la parole avec joie, ils ont même eu de la foi pendant un certain temps. Mais il n'y a pas eu une véritable croissance, il n'y a pas eu un véritable changement. Rappelez-vous de Simon le magicien, qui a été même baptisé. Et ne croyez pas que parce qu'on a été baptisé, ça y est, tout est bon, c'est ok, je peux aller vivre comme je veux. Quelqu'un disait, j'écoutais quelqu'un qui disait, on se trompera. Dans les églises, on baptisera des gens qui ne sont pas vraiment des enfants de Dieu. Il ne faut pas dire, mais parce que le pasteur m'a baptisé, c'est que je suis un enfant de Dieu. Le pasteur baptise sur la déclaration de foi. Et on est responsable de sa déclaration de foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, il ne faut pas qu'on se cache derrière le fait que parfois on parle à certaines personnes et ils disent, est-ce que tu connais le Seigneur? Ils disent, ah, j'ai été baptisé. Non, c'est pas ce que je demande. Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu marches avec lui? Est-ce que tu marches dans l'obéissance? Est-ce qu'il y a une persévérance? Parce qu'on peut avoir été baptisé, comme Simon le magicien, et ne pas connaître le Seigneur véritablement. Le fruit qui demeure, quatrièmement, est la marque infaillible de la vraie foi. Le fruit qui demeure est la marque infaillible de la vraie foi. Ce que Jésus souligne de manière particulière, il dit dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend et il porte du fruit. Et Jésus a dit, donné beaucoup d'enseignements dans lesquels il a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Regardez les fruits et vous verrez. Et les fruits, c'est pas simplement ce que l'on fait, l'agitation avec laquelle on sert dans une église ou ces choses-là, mais c'est vraiment, je crois, le fruit de l'esprit qui grandit en nous. L'amour les uns pour les autres, la patience les uns avec les autres, l'amour pour le Seigneur, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi. Tout ce qui traite du caractère chrétien. Il dit, quand ce fruit-là est là, on sait que c'est l'Esprit qui produit ces choses. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il parlait aux églises, il les encourageait, il glorifiait Dieu pour ce qu'il voyait dans leur vie, le fait qu'il voyait le fruit de l'Esprit se développer en eux. Il était conscient que ça, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut produire de telles choses. Comment écoutons-nous, comment écoutez-vous la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous l'écoutons de manière à ce qu'elle nous soit véritablement profitable? Ou est-ce que nous l'écoutons, comme certains disent, par-dessus la jambe? J'écoute là, bon. Vivement que c'est terminé, pour qu'on puisse passer à autre chose. Où est-ce... On peut avoir cette attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous la considérons dans notre propre foyer? Comment est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous cherchons à obéir à cette parole? Est-ce que nous prions Dieu pour lui demander d'incliner nos cœurs vers sa parole et non vers le gain? Jésus dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Et je voudrais juste terminer en disant que ce que Jésus dit est d'une extrême importance. Vous voyez, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne fait pas que donner une information ici. Il donne aussi une exhortation. Il appelle à écouter de la bonne manière. Quand il dit, prenez garde à la manière avec laquelle vous écoutez, ça dit que vous êtes en danger. Nous sommes en danger si nous écoutons de la mauvaise manière. Si nous écoutons avec un cœur endurci, un cœur superficiel, un cœur étouffé. Si notre cœur n'est pas ouvert pour que cette parole puisse nous transformer. Si notre cœur n'est pas disposé à obéir à la parole de Dieu. Nous écoutons avec de la mauvaise manière. Si Jésus nous dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, et que nous refusons de venir à lui, que nous refusons de croire en lui. L'Épître aux Hébreux dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent.
Se peut que la parole n'ait pas encore trouvé foi chez certains d'entre nous ici ce matin. Alors nous prions que vous puissiez venir vraiment au Seigneur. Chers frères et sœurs, prenons garde, dit Jésus, à la manière avec laquelle nous écoutons l'Évangile. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, mais nous ne voulons pas nous approcher d'elle de n'importe quelle manière. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs. C'est toi qui initie toute chose. Le salut vient de toi. C'est toi qui peux, par ta puissance, changer les cœurs de pierre en cœur de chair. C'est toi qui fais pénétrer ta loi au fond des cœurs. Et nous te prions d'agir dans nos cœurs pour les incliner vers ta parole. Merci pour le privilège d'entendre ta parole. Mais donne-nous de la recevoir, donne-nous de la retenir continuellement. Donne-nous d'y persévérer continuellement et d'y porter du fruit pour la gloire de ton nom. Amen.